Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue si vous nous retrouvez. On est en direct, évidemment, jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes. Et à 19h20, le grand débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéressera au phénomène Tesla et à son patron historique, Elon Musk, devenu l'homme le plus riche de la planète. Il se présente comme un super-héros visionnaire. Alors, qui est-il vraiment ? Comment expliquer un tel engouement pour ses entreprises, les voitures électriques, les fusées, les trains ultra-rapides ? On en parlera, vous verrez, c'est passionnant avec nos invités dans 20 minutes. Le journal avance là avec Isabelle Millet. Il est 19h, bienvenue sur Europe 1.
Pourtant, parce que j'ai 4 enfants et puis j'en ai 7 des petits-enfants, alors je voudrais bien un peu les voir tous, ça fait longtemps. Les bisous, on n'en fait plus.
Et comme cette grand-mère qui rêve de faire des bisous à ses petits-enfants, les habitants de Nancy âgés de plus de 75 ans vont pouvoir se faire vacciner dès demain, avant donc le reste de la France.
Ben oui, c'est sympa les bisous. Et alors que l'on s'attend à de nouvelles mesures restrictives, ça c'est moins sympa. Une bonne nouvelle, enfin, on en parlera.
Une étude américaine montre que les personnes infectées bénéficieraient d'une immunité pendant au moins 8 mois. C'est le double de ce que les médecins pensaient initialement.
Après l'assaut du Capitole, les entreprises américaines ont l'intention de frapper au portefeuille. Elles suspendent leur soutien financier à Donald Trump et aux élus qui ont remis en cause les résultats de l'élection. C'est ce que nous dira Didier François.
On vous emmènera aussi dans les tréfonds d'Internet avec ce coup de filet qui a permis de démanteler le plus vaste site mondial de vente sur le Darknet. Et puis l'Espagne grelotte. Après la tempête de neige, le pays vit en ce moment une vague de froid totalement inédite.
Un coup d'œil au temps avec Anissa qui viendra nous voir en fin de journal avec un être doux qui s'annonce pour demain, ma chère
oui,
Anissa.
Oui, avec très peu de gelée matinale demain, c'est à l'est qui va faire le plus froid. Demain après-midi, il fera jusqu'à 15 degrés dans le sud. Attention, nous avons toujours 2 départements placés en vigilance orange neige dans les Alpes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on va bien sûr revenir sur le Conseil de défense sanitaire qui se tient demain et les pistes envisagées face à la propagation de l'épidémie. Mais on va d'abord partir à Nancy. Pourquoi ? Parce que c'est la première ville à vacciner des personnes de plus de 75 ans hors EHPAD.
Et oui, alors que sur l'ensemble du territoire, cette vaccination démarrera lundi prochain. Nancy a décidé de devancer l'appel parce qu'elle est particulièrement inquiète de la propagation du virus sur son territoire. Arthur Enbaché, ça va commencer dès demain.
Dès demain matin, Nancy avant le reste de la France et dès aujourd'hui, Janine avant le reste de Nancy. La grand-mère de 77 ans est tellement impatiente, dit-elle, d'embrasser à nouveau ses petits-enfants qu'elle a profité d'un petit bug dans la plateforme de réservation pour se faire vacciner un jour plus tôt.
C'est important parce que j'ai 4 enfants et puis je voudrais bien un peu les voir tous. Ils sont un peu dispersés dans la France et puis au moins les voir. Ma fille, ça fait 6 mois que je ne l'ai pas vue. C'est elle, en fait, qui s'est débrouillée pour me prendre rendez-vous. J'en ai 7 des petits-enfants, alors ça fait longtemps. Les bisous, on n'en fait plus.
Dès 9h demain matin, 9 centres de vaccination, dont celui de Jarville, coordonné par l'infirmier Olivier Babel.
On aura beaucoup de personnes qui vont se présenter spontanément et à qui il va falloir expliquer qu'ils ne pourront pas se faire vacciner, en tout cas aujourd'hui. Donc le personnel d'accueil va pouvoir leur expliquer que le process, le rendez-vous, les conseiller sur la marche à suivre, même prendre rendez-vous pour eux via le site de réservation en ligne, confirmer le rendez-vous et les réorienter pour les 3, 4, 5 ou la semaine prochaine peut-être. Ouais.
Rien qu'ici, dans la salle des fêtes de Jarville, on s'apprête à vacciner 150 personnes par jour.
Arthur Mbaché à Nancy, donc pour Europe 1. Et si vous n'habitez pas à Nancy et que vous avez plus de 75 ans, il faudra patienter jusqu'à lundi pour vous faire vacciner.
Oui, et pour cela, il faudra prendre rendez-vous dans l'un des centres de vaccination.
Via les plateformes Doctolib, Maya, Keldoc, il y aura également un numéro de téléphone mis à votre disposition. On aura l'occasion de vous redonner toutes les modalités précises. Et à propos de vaccination, sachez que l'Europe aura sans doute bientôt à disposition un troisième vaccin, celui d'AstraZeneca Oxford, moins cher, plus facile à stocker, déjà utilisé par les Britanniques. Décision attendue d'ici la fin du mois. L'Europe en a précommandé 300 000 doses.
Alors ça, c'était pour les bonnes nouvelles. Côté moins bonne, on le disait, un nouveau Conseil de défense sanitaire se tiendra donc demain.
Et c'est Jean Castex qui fera les annonces jeudi. Alors plusieurs pistes sont sur la table. Une extension à tout le pays du couvre-feu à 18h ou bien une extension à 18h pour tout le monde, plus un confinement le week-end. A priori, pour l'instant, on devrait échapper à un confinement généralisé, contrairement à certains de nos voisins.
Dans ce contexte, une étude américaine nous apporte plutôt de bonnes nouvelles.
On ne savait pas jusqu'à présent si on était immunisé après avoir été malade et surtout pendant combien de temps. Eh bien, Victor Dolande, il s'avère que les personnes infectées seront tranquilles pendant quelques temps.
Oui, des scientifiques américains ont étudié les différents mécanismes du système immunitaire de 200 patients malades guéris du Covid, dont 43 infectés depuis plus de 6 mois. Et les résultats sont très encourageants puisque l'organisme de ces malades a produit des anticorps et ces derniers étaient encore présents en grande quantité plus de 8 mois après l'infection. Ces anticorps sont d'ailleurs plus nombreux au fur et à mesure du temps. Une bonne nouvelle qui n'étonne pas Éric Vivier, professeur d'immunologie à Aix-Marseille.
Comme dans la plupart des infections microbiennes, une première infection induit une réponse immunitaire qui va être protectrice pendant un certain temps. Et donc toute l'idée, c'est de savoir quel est ce certain temps. L'étude montre qu'il y a une réponse immunitaire qui est mesurable sur à peu près 95% des individus, donc c'est quand même considérable, et pendant, on va dire, une moyenne de 6 mois. C'est une bonne nouvelle.
Et d'ajouter que dans beaucoup d'infections similaires au coronavirus, l'immunité post-infection peut durer plusieurs années. On n'a bien évidemment pas le recul nécessaire pour l'affirmer aujourd'hui, il faut rester très prudent. Autre motif d'espoir, le SARS-CoV-2 mute peu. Alors bien sûr, on vous en parle beaucoup en ce moment du variant anglais, de son cousin sud-africain. Mais depuis le début de l'épidémie, c'est un fait, le Covid-19 mute beaucoup moins que la grippe par exemple. Et moins un virus mute, moins on risque de voir une perte d'immunité.
Précision importante, signée Victor Delande du service Société d'Europe 1.
19h05, c'est une information qu'Europe 1 vous révélait à la mi-journée. Une dizaine d'interpellations dans toute la France de militants pro-euthanasie.
Accusés d'avoir aidé des personnes à se procurer un puissant anesthésiant, un produit interdit en France mais utilisé pour l'aide au suicide.
En Allemagne, c'est tout simplement le plus grand site mondial de vente illégale sur le Darknet qui vient d'être démantelé.
Le Darknet, c'est la face cachée d'Internet où l'on s'échange tout ce qui est interdit par la loi. En l'occurrence, de la drogue, des faux papiers, de la fausse monnaie. On trouvait tout sur ce site. Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin.
Oui, et d'après le procureur fédéral allemand, au moins 320 000 transactions illégales ont été faites sur ce marché virtuel. Les vendeurs étaient environ 2500, mais on parle quand même d'un demi-million de clients répartis aux quatre coins de la planète qui s'y procuraient surtout de la drogue, de la fausse monnaie. Ils pouvaient aussi s'acheter des faux numéros SIM ou des logiciels pour faire du piratage informatique. Le tout payé en crypto-monnaie pour un chiffre d'affaires équivalent à 140 millions d'euros. Mais depuis hier, c'est écran noir. Les enquêteurs ont pu débrancher le système en Allemagne et aussi en Ukraine et en Moldavie où se trouvaient 20 autres serveurs informatiques. L'enquête a été coordonnée par Europol et elle a mobilisé les cyber-enquêteurs de 7 pays différents, dont les Australiens qui ont permis en fait d'identifier l'homme derrière tout ce système. C'est l'un de leurs ressortissants, un Australien donc âgé de 34 ans qui a été arrêté au nord de l'Allemagne dimanche. La traque en fait avait commencé il y a plus de 18 mois. C'est presque un scénario de film. Dans la foulée de la découverte par la police allemande d'un bunker secret, un ancien site de l'OTAN abandonné, à moitié enfoui dans le sol. Et à l'intérieur de ce bunker, les criminels faisaient tourner 1000 serveurs informatiques qui hébergeaient des sites illégaux, dont cette plateforme de Darknet.
Incroyable. Merci Hélène Kohl en direct de Berlin.
Aux États-Unis, Donald Trump juge la procédure d'impeachment qui le vise totalement ridicule.
Et il dit qu'elle suscite une immense colère. Il dénonce la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire. Il juge aussi que son discours précédant l'assaut du Capitole était tout à fait raisonnable. Et enfin, que les réseaux sociaux font une erreur catastrophique en suspendant son compte des propos tenus alors qu'il s'apprêtait à s'envoler tout à l'heure vers la frontière mexicaine pour vérifier l'avancée de son mur anti-migrant dont il a fait, vous le savez, l'un des piliers de sa présidence.
Oui, alors ce qui est sûr, Isabelle, c'est que l'épisode du Capitole laissera des traces dans la vie politique américaine et il provoque même des réactions inattendues dans les milieux économiques.
De nombreuses entreprises américaines ont en effet décidé de suspendre leur soutien financier à Donald Trump, mais aussi à tous les élus républicains qui l'ont suivi dans sa campagne de remise en cause du résultat de l'élection présidentielle.
On en parle avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François dans le journal de 19h. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
C'est un coup dur pour les trumpistes.
Ah bah oui, ça fait mal parce que ça tape au portefeuille et que l'argent, c'est aussi le nerf de la politique. Particulièrement aux États-Unis où les campagnes électorales coûtent une fortune. La dernière présidentielle et les sénatoriales qui l'ont accompagnée, c'était plus de 2 milliards d'euros, c'est énorme. En France, par comparaison, Emmanuel Macron avait dépensé 17 millions d'euros et le record absolu revenait à Nicolas Sarkozy avec 43 millions d'euros, dont 20 dépassements parce que le financement politique est limité par la loi en France, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Toutes les grandes entreprises versent des sommes parfois considérables aux candidats. On va prendre l'exemple de Marathon Petroleum, c'est un gros acteur du secteur énergétique qui avait déboursé 2,5 millions de dollars en faveur des candidats républicains. Eh bien, il vient de geler toutes ces contributions aux élus qui ont refusé de ratifier l'investiture présidentielle de Joe Biden. Et ce n'est pas le seul. Coca-Cola, American Express, Ford, c'est le constructeur automobile, les banques comme Commerce Bank ou Goldman Sachs, la chaîne d'hôtels Marriott, les magasins de Hallmark, tous ces mécènes traditionnels du Parti républicain ont suspendu leurs donations aux partisans de Donald Trump dans les dernières 48 heures.
Alors, comment expliquent-ils leur décision, ces donateurs, qui peut paraître très politique tout de même ?
Alors oui, c'est politique, mais c'est les arguments qu'ils ont, exactement les mêmes d'ailleurs, qui ont été développés par les géants des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google, lorsqu'ils ont suspendu le compte de Donald Trump ou de ses soutiens les plus radicaux. Les appels à la violence outrepassaient les règles de fonctionnement fixées par ces plateformes. Ils s'exposaient donc à des sanctions. Ça, c'est la réponse réglementaire classique. L'autre raison, eh bien, c'est une question de réputation. Alors, c'est important d'un point de vue commercial pour ces entreprises qui ne veulent pas voir leur image abîmée en étant associées à des comportements clairement en contradiction avec les valeurs qu'elles affichent. Parce que pour le coup, eh bien, elles s'exposeraient à leur tour à des campagnes de dénonciation, voire même de boycott.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Europe 1, Julien Bugier.
19h10, vous restez avec nous dans quelques secondes. Record de froid inédit en Espagne après la tempête de neige.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h11, les suites de votre journal. On parle maintenant en Espagne, ses plages, ses palmiers. On est bien loin en ce moment des images de cartes postales. Vous allez nous expliquer pourquoi,
oui,
Isabelle.
Oui, parce qu'après la tempête de neige, on en parlait, hein, qui s'est abattue sur Madrid, et bien cette fois, c'est un froid polaire qui s'est emparé du pays. On vous retrouve, Henri de Laguérie. Vous êtes notre correspondant sur place.
Oui, cette vague de froid a déjà fait 2 victimes, 2 sans-abri retrouvés morts hier à Barcelone. L'Espagne enregistre des températures historiques, moins 25 degrés cette nuit dans un village pas très loin de Saragosse. Ce froid polaire touche tout le pays. Andrés Gómez, c'est un peu l'équivalent de notre Anissa Haddadi à la télévision publique espagnole. Eh bien, jamais il n'avait eu à commenter de telles températures.
C'est sans doute la nuit la plus froide depuis 30 ans. C'est donc une situation exceptionnelle. Mais je dois dire que la tempête de neige a été plus étonnante encore que ces températures.
Voilà, et forcément, ce froid complique le déneigement à Madrid, notamment où de nombreuses rues restent bloquées 3 jours après ces chutes de neige historiques. Écoutez le témoignage de cette Française, Fanny, elle vit dans le centre-ville depuis 15 ans.
Même si à Madrid en hiver on a souvent froid quand même, on n'a pas l'habitude d'être entouré par d'énormes blocs de glace. Donc arriver à moins 7 ou moins 10 la nuit, c'est assez nouveau. Pour moi le vrai problème en fait c'est dans la rue. La neige a fini par geler, la glace a transformé les rues en fait en vraies patinoires faute de sel.
Voilà, et même si en journée le soleil est revenu, la situation reste donc compliquée à Madrid avec des coupures d'eau dans plusieurs rues. À cause du froid, le trafic TGV a dû être interrompu plusieurs heures ce matin. Les températures devraient heureusement remonter peu à peu dans les prochains jours.
On l'espère pour vous. Merci Henri de Laguérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne en direct.
Merci Isabelle. Et c'est vrai qu'en France, il fait moins froid que chez nos voisins espagnols avec des conditions météo moins compliquées, même si ça se complique un peu quand même en Haute-Savoie notamment. On vient de l'apprendre à l'instant, Anissa.
Oui, en Savoie et en Haute-Savoie, ce sont les 2 départements placés en vigilance orange, neige et verglas. D'ailleurs, sachez que l'autoroute A40 est coupée dans les 2 sens de circulation à hauteur de Bellegarde sur Valserine, c'est en Haute-Savoie. Et puis, si vous nous écoutez en Isère, sachez que la préfecture vous invite, si vous pratiquez la randonnée, le ski, les raquettes ou encore une activité de montagne, à la plus grande prudence sur les massifs de la Chartreuse, du Vercors, de la Belle Donne et des Grandes Rousses. Dans les prochaines heures, il faut éviter de pratiquer ces sports parce que nous avons un risque d'avalanche assez important dans les Alpes et ces 2 départements, vigilance orange.
Oui, le manteau neigeux est très instable, nous disent les autorités. Prudence donc à vous qui nous écoutez.
En fait, la neige tombe en abondance dans les prochaines heures. Il y a un redout des températures et en plus de ça, il pleut. Donc c'est le cocktail parfait pour la création d'avalanches. Le Jura est également concerné par ce risque d'avalanche. Prudence encore, demain, il va pas mal neiger de l'Alsace jusqu'aux Alpes. Il neige à basse altitude, à partir de 600 mètres d'altitude. Ailleurs, à l'arrière de cette perturbation sur la moitié ouest du pays, le temps est gris, mais reste sec. Et puis, une fois de plus, c'est au bord de la Méditerranée, des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur, que le temps sera le plus sec, le plus ensoleillé, le plus agréable. Mais attention, dans le sud, c'est le vent qui souffle et qui va souffler très fort sur les côtes varoises, notamment avec des rafales jusqu'à 110 km/h. Alors, côté température, là, ça va beaucoup mieux, d'où le risque d'avalanche, un vrai redout avec moins 2 à 10 degrés demain matin. C'est à l'est qui fera le plus frais. Et dans l'après-midi, c'est toujours à l'est qui fera le plus froid, avec 4 à Charleville-Mézières, 8 pour Besançon, 11 à Paris et jusqu'à 15 degrés à Nîmes et Montpellier.
Voilà, merci Anissa pour ce point complet. Prudence donc si vous habitez les départements concernés par ces fortes chutes de neige. Alors dans quelques secondes, on parlera dans le Club des Idées, c'est le grand débat du soir, le phénomène Tesla en question. On en parlera et on parlera notamment de son patron visionnaire Elon Musk. Vous savez qu'il se voit comme un super-héros. On sera avec nos invités. D'abord, c'est l'heure de la carte blanche, signée ce soir par l'entrepreneur Alexandre Malafaille.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Julien.
Entrepreneur, écrivain, patron du think tank Sinopia. Alors ce soir, mon cher Alexandre, vous adressez, une fois n'est pas coutume, un coup de cœur à Bruno Le Maire qui publie cette semaine L'Ange et la Bête.
Absolument. Alors c'est son 11e livre. Le premier qu'il a publié, ça remonte en 2004. Donc 11 livres en 16 ans, c'est pas mal. Et à chaque fois que des grands éditeurs, Grasset, Le Cherche Midi, maintenant Gallimard. Alors j'ai entendu les polémiques sur la sortie de son livre. Mais moi je crois que ce n'est pas un accident ce livre, ce bouquin. Ce n'est pas une quête d'opportunité, c'est une quête tout court. Puis on peut quand même rappeler que Bruno Le Maire a quand même fait l'École normale supérieure. C'est pas qu'un énarque, oui. Il a quand même un fond littéraire. Voilà. Alors cette fois, il publie donc des mémoires. Alors, avec des mémoires à son âge, ça peut faire sourire, mais c'est osé en tout cas. Il le fait à chaud comme s'il voulait se souvenir de tout pour ne pas perdre cette mémoire du présent qui est très fragile, très fugace. Alors il raconte, semble-t-il, son job de ministre à Bercy et présente une vision, sa vision de la crise actuelle. En tant qu'acteur de premier plan, ça ne peut pas manquer d'intérêt. Puis moi, ce qui m'intéresse par-delà le contenu, oui. en tant qu'auteur moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est l'acte d'écriture.
Mais tout de même, sortir un livre au cœur de la crise sanitaire, vous croyez qu'il en a le temps ?
Mais j'espère qu'il en a le temps. Moi, je me méfie beaucoup de ceux, si vous voulez, qui n'ont le temps de rien et qui travaillent tout le temps, surtout en temps de crise, peut-être encore plus en temps de crise. On attend quoi d'un dirigeant ? On attend des résultats et on attend qu'il sache s'entourer, pas qu'il pointe le matin et le soir et qu'il bosse 18 heures par jour. Que dirait Machiavel à sa place ? Il dirait que ce sont les résultats qui comptent. Il ne faut pas confondre obligation de moyens et de résultats, ce qui est quand même constitue souvent un mal français. Alors Bruno Le Maire, écoutez, il gère son temps comme il l'entend. Et pour l'instant, face à cette crise et aux décisions du gouvernement, décisions qu'il n'assume pas toutes au sens où il ne les a pas toutes prises, oui. Et dans le périmètre qui est le sien, il s'en sort quand même plutôt pas mal. Alors bien sûr, maintenant, s'il fait des dédicaces tout le temps comme François Hollande dans les supermarchés, on pourra en reparler de son gestion de temps.
Oui, surtout s'il ferme les supermarchés dans quelques semaines.
C'est ça.
Mais est-ce que vous pensez qu'écrire, ça l'aide à gouverner ?
Écoutez, moi je pense que lire, d'abord, ça aide à prendre de la hauteur, du recul et ça aide à s'inspirer. Écrire, ça va beaucoup plus loin. C'est un travail sur soi, c'est un espace de liberté, de fécondité, de création, de construction. Et par expérience, moi je peux vous dire que la main tire l'esprit, Julien, et tous ceux qui écrivent vous le confirmera. On va beaucoup plus loin avec un stylo à la main. Dans tous les cas, lire et écrire, je crois que c'est nécessaire aux hommes d'action. Et puis c'est autre chose que la culture de Trump sur Twitter. Et puis après, c'est si vrai. Bruno Le Maire a besoin d'écrire pour être meilleur, qu'il le fasse, qu'il écrive. Chacun son truc. Vous, Julien, c'est peut-être le vélo.
C'est le vélo, absolument, depuis peu d'ailleurs. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même un calcul politique là-dedans ?
Ah, il y a toujours un peu de calcul en politique, ce serait surprenant qu'il n'y en ait pas. On n'est jamais mieux servi par Bruno Le Maire que par Bruno Le Maire. Mais ce n'est pas un crime en soi. Qu'il pense à Matignon, pourquoi pas ? Combien de gens pensent à Matignon aujourd'hui ? Il ne doit pas être le seul. Mais je crois que l'ambition politique, l'ambition tout court, fait partie du jeu. Mais la culture en France et la littérature aussi, elles sont au cœur de notre histoire. Oui. Je crois que mieux, elles font notre histoire. En France, la littérature est à l'histoire, un peu ce que le vent est à la navigation. Et tous nos grands hommes ont écrit, pas un n'a échappé à, si je puis dire, à l'inventaire. En France, d'ailleurs, la France serait pas le pays des Lumières et la patrie des droits de l'homme sans ses écrits extraordinaires. Et puis vous verrez, Julien, ce sera grâce à la culture et au monde des idées qui s'épanouit dans la littérature que nous préserverons ce qui fait, je le crois, fondamentalement notre identité, à savoir la liberté. Alors, vive l'écriture et puis bravo à Bruno Le Maire pour ce 11e bouquin.
Bon, voilà, votre carte blanche à Bruno Le Maire ce soir, mon cher Alexandre. Vive l'écriture, vous avez raison de le souligner. Je retiens cette expression que vous nous avez donnée ce soir. La main tire l'esprit. La main tire l'esprit. Merci Alexandre.
Merci Julien.
Europe 1, Julien Bugier.
19h18, restez avec nous dans quelques secondes. Le grand débat du Club des idées. On s'intéresse donc ce soir au phénomène Tesla, dont la valorisation boursière est désormais estimée, tenez-vous bien, à près de 700 milliards de dollars. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h22, ce soir dans le débat du Club des idées, on s'intéresse à un phénomène. Le phénomène Tesla et son fondateur, l'excentrique Elon Musk, devenu depuis quelques jours l'homme le plus riche de la planète devant Jeff Bezos, le patron d'Amazon, avec une fortune estimée à 195 milliards de dollars. Rendez-vous compte. Alors quel est son secret ? Et celui sur toutes ses entreprises, et notamment sa voiture star toute électrique, les Tesla. On en parle donc ce soir avec nos invités. Michaël Valentin, bonsoir. Vous êtes associé fondateur chez OPO. C'est un cabinet de conseil en performance industrielle. Et vous êtes aussi auteur de « Le modèle Tesla, du toyotisme au teslisme, la disruption d'Elon Musk ». C'est aux éditions Duno. Erwan Benezé est également avec nous. Bonsoir Erwan.
Bonsoir.
Journaliste au service éco du Parisien en charge des questions énergie et automobile et auteur du podcast « Qui est vraiment Elon Musk ?». Et puis Stéphane Loher est également avec nous en studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditorialiste au Monde et vous connaissez évidemment très bien cette question de Tesla et de son fondateur. Alors d'abord, question un peu toute bête, mais comment expliquer l'incroyable succès de Tesla qui pèse aujourd'hui en bourse, je le disais tout à l'heure, plus que tous les constructeurs réunis, plus de 700 milliards de dollars. Erwan Benezé.
Alors, pour Tesla, je dirais une capacité à avoir l'air d'arriver avant tout le monde, mais finalement d'arriver au bon moment. C'est-à-dire que la voiture électrique, parfois on ne se souvient pas, mais elle existe quasiment, la technologie électrique de la voiture existe quasiment depuis l'histoire de la voiture. Il y a les premières voitures électriques dans les années 1910.
Oui.
J'ai moi-même vu il n'y a pas très longtemps, et c'est marrant puisque jeudi, Renault va présenter une 4L ou une R5,
une R5
électrique. Voilà.
R5. Mais ça nous rappelle des souvenirs. Ça,
j'avais vu une R5 électrique, j'ai vu une R5 électrique qui datait de 1974, je crois, à deux places parce que la batterie était tellement énorme que ça prenait toutes les places arrière et le coffre. Et donc c'est finalement d'utiliser une technologie centenaire et puis de l'imposer au monde aujourd'hui.
Et à une époque qui est prêt à s'y convertir et aussi à l'accepter. Alors, il y a quelque chose qui est quand même fascinant. On parle deux secondes quand même de la valorisation un peu folle de Tesla. 700 milliards de dollars. Il faut se rendre compte de ce que ça représente. Un Toyota, par exemple, produit chaque année plus de 9 millions de véhicules dans le monde et pèse seulement 215 milliards. Tesla annonce produire 500 000 voitures seulement. 500 000 contre 9 millions pour Toyota. Et pèse plus de 700 milliards. On est face à une bulle, Stéphane Lauer ?
Il y a les deux phénomènes. C'est évidemment une bulle. Il y a une exubérance irrationnelle des marchés, comme on dit, parce qu'il y a énormément de liquidités qui sont injectées actuellement par les banques centrales. Donc cet argent cherche à s'investir, mais il ne s'investit pas de façon irrationnelle. Il va là où les retours sur investissement sont les plus prometteurs.
Ben oui, parce que quand on regarde l'action quand même, si on avait acheté des actions Tesla il y a quelques années, ça a bondi de 740% l'action depuis son introduction. Je crois que c'est quasi unique dans l'histoire de la bourse récente.
Tout à fait. C'est la plus grosse valeur qui est rentrée au S&P 500, qui est l'indice phare de la bourse de New York. Et c'est vrai que c'est assez fou. Mais au-delà de cet aspect bulle, les investisseurs ne sont pas complètement dingues. C'est-à-dire qu'ils mettent leur argent sur une technologie et une avance technologique qui est des plus prometteuses.
Alors le nom Tesla, j'ai découvert ça, je ne le savais pas, est un hommage à Nikola Tesla, qui est un ingénieur qui a développé le courant alternatif et inventé l'alternateur à la fin du 19e siècle. Et ça a commencé il y a 16 ans. L'aventure Tesla. Voici par exemple en 2013 comment en parlait Elon Musk.
Ça remonte à quand j'étais à l'université. Je me suis demandé quels étaient les problèmes les plus susceptibles d'affecter le futur du monde ou le futur de l'humanité. Je pense qu'il est extrêmement important que nous ayons des transports durables et une production d'énergie renouvelable. Ce problème d'énergie renouvelable est le plus gros problème à résoudre durant ce siècle.
Alors là où il est très fort, Michael Valentin, Elon Musk, c'est qu'il n'a rien inventé du tout. Il a simplement eu du nez et senti le bon filon en investissement dans l'entreprise parce que ce n'est pas du tout lui qui l'a créé. C'était une start-up créée en 2003 et il y a investi plus de 6,5 millions de dollars. Il en a pris la tête et puis il en a fait ce que l'on en connaît aujourd'hui. Mais ce n'est pas lui qui a eu l'idée de l'entreprise.
Ouais. Alors ce qui est fort par rapport aux deux questions qui étaient posées avant, c'est qu'en fait, ce qui fait aussi cette valorisation de 700 milliards, c'est une vision. En fait, ce que pose Elon Musk dès le début, c'est une vision. Au-delà de la technologie électrique, c'est une vision où, à terme, la voiture est autonome. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'au-delà de l'électrique, c'est surtout la voiture autonome qui est la révolution.
Donc, à terme, il n'y aura plus besoin de la conduire.
L'idée, en tout cas, si on croit à sa vision, c'est qu'on a des robots taxis. Donc, vous rentrez chez vous, vous allez au travail, vous posez votre voiture. Et en fait, quelqu'un peut l'utiliser. Donc, à l'usage, va vous payer en fait l'utilisation de votre voiture. Et si on pousse plus loin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a besoin peut-être de moins de voitures, parce qu'aujourd'hui, une voiture est utilisée 2% de son temps à peu près.
Oui.
Et donc, les villes elles-mêmes changent. Vous avez besoin de moins de parking, moins de routes, etc. Et par ailleurs, donc ça c'est la vision plutôt automobile, il y a la vision énergétique où Tesla, il ne faut pas oublier que c'est un fournisseur d'énergie. Il y a des réseaux de superchargeurs partout dans le monde aujourd'hui. Tesla est aussi un fournisseur d'électricité. La raison pour laquelle, en fait, malgré le volume de production, les investisseurs investissent tant sur Tesla, c'est que c'est exponentiel. Tesla, c'est une boîte de tech, c'est ça qu'il faut comprendre à la base.
Oui.
Elon Musk réfléchit comme une boîte de tech. Il y a 15 ans, les gens disaient la même chose d'Amazon que Tesla il y a 2 ans. C'est-à-dire Amazon, ça ne marchera pas, ça perd de l'argent, etc. Et on a vu, quand on arrive sur l'inflexion de l'exponentielle, ce qui se passe, c'est qu'Amazon, ça devient maintenant tentaculaire et ça prend une position dominante. Et Tesla, il est en train, en tout cas, c'est ce sur quoi misent les investisseurs, c'est qu'il est en train d'arriver sur l'inflexion de l'exponentielle. Et en fait, en multipliant tous les ans par deux la production et le volume de vente, on arrive finalement très vite aux 10 millions.
Oui, donc vous êtes en train de nous dire, pour faire simple, qu'il ne faut pas voir Tesla comme un simple fabricant et un vendeur de voitures aujourd'hui, mais comme tout un écosystème qui va révolutionner la mobilité demain dans nos villes.
C'est le fait de penser plateforme, en fait. Dans le monde de la tech, c'est une des principales. Par exemple, Apple, c'est d'abord une plateforme sur votre iPhone, vous allez télécharger des applications et c'est comme ça qu'Apple gagne de l'argent. Bah, Tesla, c'est la même chose à terme. La vision d'Elon Musk, c'est que vous avez un réseau de voitures qui sont en circulation. Vous en aurez 1 million, vous en avez 1 million aujourd'hui, vous en aurez peut-être 10 millions, ensuite 20 millions.
Oui.
Là-dessus, vous allez avoir tout un tas, c'est ce qu'on appelle un réseau de surtraitance. C'est un réseau sur lequel il y a des gens vont faire des applications et on va pouvoir utiliser la voiture comme un robot taxi, comme regarder des films, etc. C'est pas pour rien qu'Apple se positionne sur la voiture, par exemple.
C'est passionnant ce que vous racontez et on va continuer d'en parler dans quelques secondes et on va parler aussi de l'homme. Qui est-il vraiment, Elon Musk ? Car il est assez décrié, ce personnage. Est-il visionnaire ou non ? On en parle dans quelques secondes parce que c'est aussi l'homme qui veut aller sur Mars. Tiens, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, passé de 1 minute ce soir dans le grand débat du Club des Idées. On s'intéresse au phénomène Tesla et à son fondateur, l'excentrique Elon Musk. Alors, on en parlait juste après la pause avec nos invités. Elon Musk, c'est un Sud-Africain qui est né en 71, qui a fait des études au Canada et aux États-Unis, qui est ingénieur et qui très vite, en 99, va comprendre l'attrait d'Internet. Il fondera X.com, c'est un site d'activité bancaire, et puis PayPal. C'est PayPal qui fera véritablement sa fortune. Est-ce qu'on peut dire, Stéphane Lauer, éditorialiste au Monde, que c'est un visionnaire, Elon Musk ?
Oui, c'est un visionnaire et en même temps, il a un côté un peu dingue. Enfin, il a pas le comportement d'un patron de boîte classique, par
mais
exemple.
Mais est-ce que c'est pas ça qui fait son charme et son talent ?
Ça peut faire son charme, mais il faut discuter aussi avec ses collaborateurs. C'est quelqu'un d'extrêmement exigeant avec lui-même, mais surtout avec les autres. Ça pose des problèmes de management parce qu'il y a eu pas mal de départs aussi dans les équipes Tesla. C'est une entreprise extrêmement attractive, mais ouais. Il faut tenir le choc. C'est quelqu'un qui peut arriver dans une usine avec son sac de couchage et il va dormir au pied de son bureau parce que voilà, il a des horaires de dingue. Donc Elon Musk,
c'est ce qu'on appelle un geek. C'est un geek, Elon Musk ?
Oui. Enfin, c'est plus qu'un geek. Hein. Il est une telle personnalité que... Mais moi, ce que je pense, c'est que Elon Musk, c'est l'actif le plus précieux de la boîte et en même temps, c'est ce qui peut faire exploser la boîte. C'est-à-dire, oui, le jour... Oui. Où il part parce qu'il est renversé par le conseil d'administration ou quoi, ça fait dégringoler la valeur de la boîte et il est absolument incontrôlable.
Bon, elle s'est bien reprise l'action depuis, on en parlait tout à l'heure. Je voudrais simplement qu'on avance pour bien comprendre ce que vous disiez, c'est-à-dire que Elon Musk, il a aussi des particularités très assumées. Il n'a pas de bien immobilier, par exemple. Il est locataire de sa maison. Pour un grand milliardaire comme ça paraît quand même assez, assez surprenant. Il dit refuser de percevoir son salaire. Alors, il détient des actions. Et il ne veut pas revendre ses actions. Il dit qu'il veut les garder jusqu'au moment où il pourra lever ses actions. C'est comme ça que ça se passe sur les marchés financiers. 50 milliards de dollars d'ici 2028. Il ne touche pas de dividendes non plus. Et il vivrait en fait grâce à la vente de ses biens immobiliers à l'époque où il a gagné pas mal d'argent avec notamment PayPal. C'est un excentrique, Erwan Beneze. Vous êtes journaliste au Parisien, Elon Musk.
Il a un grain de folie, ça c'est sûr. Mais je dirais que c'est un peu le... Il est à l'industrie ce que Mozart était à la musique. Et pour tous ceux qui ont vu Amadeus de Milos Forman à l'époque, on voyait cette excentricité qui s'incarnait dans la musique.
Qui est la source de
la
créativité, en vérité.
Voilà. Elon Musk puise dans cette petite folie, pas si douce que ça, pour y avoir l'énergie et la combativité, la résilience dont il a fait preuve, parce qu'il a quand même affronté beaucoup, beaucoup d'épreuves.
Alors, ce qui est intéressant, Michael Valentin, vous êtes associé fondateur chez OPO, c'est un cabinet de conseil en performance industrielle, c'est que généralement, les champions de la tech sont plutôt des démocrates. Ben lui, c'est raté. C'est un républicain qui a d'ailleurs été engagé comme conseiller de Donald Trump, qui a finalement quitté ses fonctions quand ce dernier a décidé de quitter les accords de Paris sur le climat, parce qu'Elon Musk est convaincu que l'écologie est le combat de demain. Mais c'est vrai que c'est un républicain, ça fait partie aussi du personnage et peut-être de ses contradictions.
Ouais, je crois que ce qui est important pour lui, au-delà des aspects purement politiciens, c'est vraiment en fait, comment mettre en place sa vision. Encore, je reviens à ça, parce que c'est hyper important pour comprendre le personnage. Pour moi, c'est le retour du patron entrepreneur dans le sens visionnaire. C'est-à-dire qu'il a une vision assez plus forte que tout. Donc, ça peut arriver, et comme vous dites, ça peut mener aussi à certaines formes de dérive. Mais ceci dit, moi, j'étais sur place là-bas à Fremont. J'ai passé du temps avec ses équipes. Je peux vous dire qu'il y a une culture qui est très, très forte et il y a énormément d'énergie sur place.
C'est-à-dire que les gens, par ses équipes.
Les gens, en tout cas, là-bas, les gens que j'ai rencontrés, l'adulte, c'est presque, ouais. C'est presque en fait de l'ordre du mythe. Mais ce qui est à la fois intéressant, c'est qu'il y a cette espèce de
comme
mythe.
Comme le patron d'Apple, comme
c'est
Zuckerberg,
ça. Sauf
chez
que
Facebook.
La différence, c'est comme vous dites, justement, quand j'y étais, c'était la période où ils avaient du mal à monter en cadence sur le modèle 3 et on le voyait dans l'atelier qui était là. C'est que c'est le patron entrepreneur, mais qui est complètement accessible parce que dans l'esprit start-up, vous allez avoir une boîte de 30 000 personnes, vous allez vous poser à côté de l'opérateur parce qu'il n'arrive pas à résoudre un problème de robotique et c'est lui qui va résoudre avec l'opérateur. Donc ça pose des questions sur le management parce que c'est très horizontal et ça impulse une énergie et il faut suivre, c'est clair. Mais par contre, en termes de vitesse, et c'est ça qui est très important, pour atteindre sa vision, c'est la vitesse. Et donc, qu'est-ce qui fait que je vais plus vite? Parfois, ça veut dire que je vais aller aider les équipes moi-même et je vais montrer l'exemple, en fait, et du coup, je vais être suivi. Et puis, parfois, c'est autre chose. Mais en tout cas,
c'est très. Combien de salariés chez Tesla?
Alors, aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire exactement, mais les chiffres que j'ai, l'ordre de grandeur, c'est 30 000. Alors, avec la Chine et puis l'Allemagne, on va passer peut-être à 40 ou 50 000 personnes assez rapidement, parce qu'il est en train d'ouvrir des sites un peu partout dans le monde. Mais c'est à peu près 40 000 personnes, quoi.
Et c'est un système de production très particulier aussi. J'ai vu qu'il y a une usine, par exemple, qui vient d'ouvrir pour fabriquer les voitures, qui est totalement automatisée. Alors là, vous parliez tout à l'heure de problématique de salariés. Il n'y a plus de salariés. Il y a certaines usines où c'est que des robots qui fabriquent les voitures.
Alors, j'avais visité l'usine d'assemblage, la première usine d'assemblage de Tesla en Europe, première usine en Europe de Tesla qui faisait de l'assemblage, donc qui faisait venir des États-Unis les voitures et puis qui les assemblait. Et on avait l'impression d'être dans un laboratoire.
C'est Star Wars.
Voilà, c'est ultra tech avec des robots partout, tout était blanc. C'était assez étonnant. Ça ne ressemblait absolument pas à une usine de construction ou d'assemblage de voitures. Et effectivement, quand vous parliez de système, il y a aussi toute l'organisation. En fait, Elon Musk a mis en place une organisation intégrée, c'est-à-dire qu'il ne veut pas travailler avec des fournisseurs ou le moins possible. Et donc, il veut avoir la mainmise sur l'ensemble de la chaîne. Et notamment,
donc,
l'élément le plus important.
Toutes les pièces de la voiture.
Oui, et notamment l'élément le plus important,
le
qui
moteur.
Est la batterie. Vous parliez de ces grandes usines qui sont en train d'être installées.
La batterie,
savoir que
sûr.
La batterie, c'est 40% du coût final d'une voiture électrique.
40%.
Et donc, pas question d'être dépendant, notamment des principaux fournisseurs qui sont les Chinois. Et donc, il a mis en place des gigafactories. Il y en a aujourd'hui 5 à peu près, dont une en Allemagne, une en Chine, 3 bientôt aux États-Unis. Et c'est un modèle où il a le contrôle sur tout.
Vous les avez conduits, vous, ces fameuses Tesla, Stéphane Loewer? Non.
Non, pas pour ma part.
Qui les a conduits ici?
Et alors
c'est si incroyable que ça ou pas?
J'ai une petite anecdote qui résume très très bien la voiture. J'étais avec un photographe du journal, et puis on était assis. On avait à l'époque la voiture qui accélérait le plus, la Tesla. Je crois que c'était en 2 secondes 8, qui est des performances.
C'est le modèle S, c'est ça?
Incroyable, la Tesla S, qui avait l'option Ludicrous, qui permettait d'accélérer en 2 secondes 8.
Donc là, c'est comme une voiture de course. Hein. C'est 0 à 100 en 3 secondes et demie ou quelque chose comme
2 secondes 8,
ça.
2 secondes 8. 2 secondes 8. Donc c'est l'équivalent d'une Bugatti Veyron, enfin des voitures les plus puissantes. Et donc, on se dit, on est sur
tout une... Tout ça en électrique,
tout
évidemment.
Ça en électrique, sans un bruit. Donc, on est sur une petite route des Pays-Bas. On va justement visiter cette fameuse usine, faire un reportage. On se dit, allez, on s'arrête sur la petite route. Il n'y a personne, c'est une ligne droite. Et on tente l'accélération. On accélère. Et puis, je m'arrête. Et mon photographe qui était avec moi me dit, je crois que j'ai eu un voile noir, comme les pilotes de chasse. Alors, c'était certainement psychologique, mais l'accélération était telle qu'il s'était un instant cru dans un avion de chasse.
Et en l'ergonomie fait. De la voiture, parce qu'on dit que tout est électronique, dirigé avec un grand écran là, qui ressemble à une tablette. C'est très minimaliste. On a presque l'impression d'être dans une fusée, d'ailleurs.
Alors, ça, c'est un des principes super importants aussi des entreprises qui viennent de la tech, c'est qu'elles sont très tournées, ce qu'on appelle vers l'usage user-centric, ce qu'on dit en anglais. C'est-à-dire que quand vous définissez le produit, la première chose que vous regardez, c'est pas forcément le moteur, les roues, etc. C'est quand je suis assis à la place de celui qui conduit, qu'est-ce que je ressens? Comment j'ai mes informations en termes d'ergonomie? Est-ce que c'est facile? Pourquoi est-ce que tout le monde adore l'Apple, l'iPhone ou beaucoup de personnes? Parce que c'est hyper simple. Donc là, l'idée, c'est de retrouver la même chose avec un écran hyper simple. Vous allez trouver toutes les fonctions sur un écran tactile. Puis l'autre sensation, quand on conduit une Tesla, c'est le côté conduite autonome, en fait. C'est-à-dire que vous êtes pour la première fois, vous êtes dans une voiture, en fait, qui va conduire toute seule.
Mais ça fait pas peur, ça, de pas avoir la maîtrise du véhicule?
C'est comme tout, si vous voulez. Au départ, on a peur. Et puis dans un avion, on n'a pas peur quand on est en pilote automatique. Dans une voiture, on s'y habitue aussi. Donc, c'est l'avenir, quoi.
Stéphane Loewer.
Alors, juste un petit bémol sur cette vision idyllique. La grande force de Tesla, c'est son avance en termes d'électronique embarquée, de logiciels, etc. En termes de finition pure, ils sont encore derrière le luxe allemand. Ils ont eu des problèmes de montée en cadence. Mais à la
oui,
limite,
parce que c'est pas donné quand même. Hein. L'entrée de gamme, c'est 55 000 euros au bas mot. Hein, pour
voilà,
une voiture,
ça peut aller jusqu'à 80 000 et quelques. Oui. Mais le problème, c'est que les utilisateurs de Tesla, ils sont prêts à passer au-dessus de ces petits défauts de jeunesse, parce que ce qui les intéresse, c'est le rapport avec la voiture et c'est pas avoir un tableau de bord nickel, etc.
Vous m'avez donné envie, là, j'ai envie d'en essayer une par conséquent, parce que moi, j'ai jamais monté dans ma vie dans une Tesla. On continue d'en parler juste après la pause à 19h40 et on va s'intéresser aussi à l'autre projet un peu fou d'Elon Musk, aller sur Mars pour coloniser la planète. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, ce soir, débat absolument passionnant dans le Club des Idées sur le phénomène Tesla et son fondateur, l'excentrique Elon Musk. Alors, vous me disiez, les invités qui sont dans le studio d'Europe 1 avec moi, que l'une des particularités aussi de cette voiture, Michael Valentin, vous êtes associé fondateur chez OPO, cabinet de conseil en performance industrielle. L'une des particularités, effectivement, de cette Tesla, c'est qu'elle peut changer de logiciel à distance.
C'est un des gros défis en fait aussi du monde industriel en général. C'est pour ça que le modèle Tesla est une source d'inspiration pour tous les industriels. C'est qu'en fait, l'idée c'est que dans l'ancien monde, vous faites un produit et puis ensuite, une fois qu'il est vendu, il est un peu entre guillemets oublié, ça devient un bien qui est stocké. Là, vous faites un produit. En fait, l'idée c'est que vous gardez la relation avec votre produit parce que vous allez continuer à l'améliorer. Vous faites des montées de version comme un iPhone et du coup, vous pouvez pousser des fonctionnalités. Donc, quand vous avez une Tesla, en fait, toutes les semaines, elle va s'améliorer. Et donc, c'est une voiture qui s'améliore à distance.
Il n'y a pas besoin de changer.
Vous pouvez pousser une amélioration de l'autonomie de la batterie, on en parlait. Vous pouvez même améliorer les freins. Il a poussé une amélioration des freins à un moment donné. Mais il y a aussi ce côté, on parlait de Elon Musk tout à l'heure. Il est très présent sur Twitter. Vous pouvez lui écrire pour une remarque. Il y a beaucoup d'utilisateurs de Tesla qui lui écrivent: Elon, est-ce que tu pourrais ajouter cette fonctionnalité où quand on descend de la voiture, si j'ai une position de mon siège, quand je retrouve cette position, la voiture va se remettre automatiquement. Et en deux semaines, cette fonctionnalité a été poussée à toutes les Tesla du monde. Donc c'est hyper interactif.
Incroyable.
En fait.
Incroyable. Erwan Benezé.
Ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, avec cette voiture, vous la mettez au garage le soir, vous allez vous coucher et le lendemain, comme un vulgaire téléphone, vous avez une mise à jour. Et comme tout le hardware, c'est-à-dire les capteurs, le cerveau électronique, etc., sont déjà présents, c'est prévu, avec la mise à jour du software, de l'électronique, du programme, le lendemain, vous vous réveillez avec finalement une voiture différente de celle que vous avez conduite la veille.
Bon, alors tout ça, c'est formidable. On n'a pas arrêté de dire que tout ça était formidable. Il y a quand même, vous le disiez tout à l'heure, d'abord les finitions, Stéphane Noer, vous êtes éditorialiste au Monde, qui ne sont pas terribles, pas au niveau en tout cas des grandes marques automobiles de luxe. Il y a aussi le fait qu'une voiture électrique, même si elle roule longtemps, on est obligé de s'arrêter quand même pour recharger le véhicule, même avec les superchargeurs qui mettent une heure, deux heures, mais quand même pour faire une distance de longue distance, 700, 800, 900 kilomètres, il faut prévoir le temps de pause.
Oui, mais là encore, Elon Musk, il a un temps d'avance. Il y a une amélioration permanente de la capacité des batteries. Et surtout, ce qu'il faut comprendre dans l'écosystème Tesla, c'est que comme ils sont leaders, vous disiez tout à l'heure, ils ne construisent que 500 000 voitures contre 10 millions pour Toyota. Mais le point, c'est que lui, il construit 500 000 voitures électriques. Renault, qui est le premier vendeur en Europe de voitures électriques
avec la Zoé notamment,
c'est 3% de ses ventes. Donc, il n'a pas du tout les mêmes économies d'échelle. Il n'a pas du tout le même rapport avec ses fournisseurs. Si on prend une référence dans l'automobile traditionnelle, l'excellence de Mercedes, elle a été acquise à cause d'une relation très particulière avec Bosch.
Oui.
C'est ce qui leur a permis d'avoir toujours un temps d'avance en termes d'innovation, etc. Tesla fait exactement la même chose avec ses fournisseurs et c'est lui qui donne le tempo dans le secteur pour les innovations.
Alors, il y a aussi quelque chose qui est assez fou chez Elon Musk, c'est qu'il ne s'arrête pas aux voitures électriques. Il veut aller sur Mars pour, dit-il, sauver l'humanité et installer une colonie sur la planète rouge. Alors, il a créé pour ça la société SpaceX. C'est la première entreprise privée à aller dans l'espace et à ravitailler d'ailleurs la Station Spatiale Internationale. Là encore, c'est un immense succès qu'il a réussi. Personne n'y croyait. Mais ça montre aussi l'excentricité du personnage parce que vouloir aller coloniser la planète rouge, c'est quand même un projet un peu fou, ça, Erwan Benezé.
Ça montre en tout cas sa capacité à mettre en jeu ou à concrétiser ses rêves, parce que ses yeux tournés vers le ciel, il les a depuis qu'il est tout petit. Il était passionné de science-fiction, passionné de bande dessinée avec des super-héros. Donc, il se voit, lui, en super-héros qui va sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité, il faut pouvoir aller, par exemple, coloniser Mars. Et donc, très, très tôt, il a mis en place une sorte de parcours à étapes. Hein. Tesla en était une, SpaceX en est une autre, l'intelligence artificielle en est une autre.
Il y a l'Hyperloop aussi, c'est le train ultra rapide qui fonctionne.
C'est un train subsonique. Alors, c'est pas sa société, c'est un projet qu'il a accompagné et c'est une sorte de capsule dans laquelle on pourrait mettre des voyageurs.
Pressurisé, qui fonctionne à très grande vitesse.
Sous vide et qui peut se déplacer à 1200 km/h. Tout ça sont des projets qui avaient l'air complètement fous et en fait aujourd'hui, il y a des prototypes qui existent. existe et qui montre qu'en fait, il est capable vraiment d'appliquer ce qu'il a dans sa tête.
Et l'idée aussi d'un avion supersonique électrique, Stéphane Nauer, enfin, il regorge de projets, cet homme-là.
Mais ce qui est amusant, c'est que dans l'aérospatiale, on a eu le même phénomène que dans l'automobile. C'est-à-dire que tout le monde l'a vu arriver avec ses idées un peu fantasmagoriques, en se disant, il n'y arrivera jamais, c'est complètement fantasque, etc. Et 10 ans, 15 ans, 20 ans après, on se rend compte qu'il a imposé une rupture. Son lanceur spatial, il est capable de revenir sur Terre. Et maintenant, c'est Ariane Espace qui court après SpaceX.
Michael Valentin, sur ces projets fous, ça va aller à son terme, ouais, tout alors, ça ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, j'ai rencontré là-bas aussi des personnes qui étaient auprès de lui sur SpaceX au départ. Et ce qu'il me racontait, c'est que tout le monde le prenait vraiment, véritablement pour un fou. C'est-à-dire qu'il était dans un hangar et il testait en fait, des lanceurs comme ça avec des manettes. La plupart des gens qui allaient le voir, effectivement, le prenaient pour un fou. Et il est dans un salon, en fait, à l'époque, où il a dit aux autres, à tous les gens de la NASA, etc., dans 10 ans, vous êtes morts. Et tout le monde a éclaté de rire.
Ah oui.
En fait, c'est ce que je vous disais au début de l'émission sur le côté exponentiel, en fait. Et maintenant, SpaceX, tout le monde le prend au sérieux. Donc, il y a ce côté. Quand je crée quelque chose, je le pense, je fais un noyau qui fonctionne bien et ensuite je passe à l'échelle. Ce passage à l'échelle est super important, quelle que soit la société qui crée. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il a cette vision de « je veux sauver la planète ». Je pense qu'il y croit fondamentalement. Vous disiez tout à l'heure, il ne possède pas de biens. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est mu par cette vision, alors qui est effectivement très excentrique. Mais en tout cas, il y croit et il veut atteindre ce but. Et donc, toutes les sociétés qui créent, finalement, elles ont pour objectif de contribuer à la transition énergétique et puis de résoudre ce problème climatique. Quoi.
Alors il fait de drôles de blagues quand même qui mettent en péril sa société. Par exemple, pour un 1er avril, il avait annoncé la faillite du groupe pour faire de l'humour, ce qui avait eu un impact financier important, notamment en bourse. Il a même fait une fausse annonce de retrait de la bourse de Tesla, ce qui lui avait valu une plainte pour manipulation de cours des autorités financières, notamment aux États-Unis. C'est peut-être là, pour terminer, les limites du personnage. Il est son propre ennemi. Il peut mettre en péril l'avenir de sa société.
Alors, il adore provoquer, ça c'est sûr. Il a aussi ce mélange de cultures très populaires. Hein. Le lanceur qui a propulsé la Crew Dragon, la capsule dans laquelle les astronautes se trouvaient, c'est la Falcon, c'était le Falcon 9. Et c'est un petit clin d'œil au Millennium Falcon, qui était piloté par Luke Skywalker dans La Guerre des Étoiles. Et donc, il aime bien aussi passer un peu pour un doudingue. Et puis derrière, il met quand même toute la volonté et tout le travail pour arriver à ses fins. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui travaillent avec lui, et notamment y compris la NASA, le gouvernement, disent que le plus grand risque qui menace Elon Musk, c'est Elon Musk lui-même et ses frasques ou ce côté fantasque.
Merci, c'était absolument passionnant. On aurait pu continuer des heures et on en reparlera, j'en suis sûr, avec vous. Merci à tous les trois.
Merci.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du Club des idées d'Europe Soir avec les archives, comme chaque jour à 19h50, quand le passé éclaire l'actu, ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Angèle Châtelier.
Bonsoir Julien.
On va parler musique avec vous, ça tombe bien parce qu'on va retrouver Émilie Mazoyer dans quelques secondes. Alors on est le 12 janvier 59, c'est un grand jour dans l'histoire de la musique, c'est le jour de la création d'une usine à tubes, le label Motown.
Le label Motown, l'un des labels les plus connus qui a vu naître Stevie Wonder, The Supremes, Marvin Gaye. Et tout commence effectivement le 12 janvier 1959 à Détroit, aux États-Unis. Son fondateur s'appelle Berry Gordy. Il n'a que $800 en poche, argent que lui a prêté sa famille. Il est lui-même musicien et tient un disquaire spécialisé en jazz. Mais ce qu'il veut, c'est produire et promouvoir des carrières d'artistes. Et c'est lui qui écrit l'un des premiers succès du label Motown, Shop Around, du groupe The Miracles en 1961. Shop around, oh yeah, you better shop around. L'histoire du label Motown est aussi une histoire politique. Berry Gordy produit et signe très peu d'artistes non-blancs, surtout à la création de la maison de disques. Le groupe le plus emblématique et qui participe à ce son caractéristique des artistes Motown, une musique soul à la fois pop et gospel, ce sont les musiciens The Funk Brothers. On leur doit notamment What's Going On de Marvin Gaye. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see what's going on.
What's going on? Love Music. Et l'une des figures emblématiques du label Motown, c'est aussi Diana Ross, bien sûr.
Qui parraine, disons-le, pour des besoins marketing, l'arrivée des Jackson 5 au sein du label. En 1969, le groupe sort son premier album studio. Diana Ross présente The Jackson 5. Et puis il y a leur tube après, I Want You Back. Oh, mais le label Motown, on le disait, c'est aussi Stevie Wonder. Et à Europe 1, nous avons une archive prestigieuse. L'un de ses concerts, enregistré en 1965 dans l'émission Musicorama. En 1971, le label Motown déménage à Los Angeles. 22 ans après, Berry Gordy vend une partie du catalogue pour 301 millions de dollars.
Merci Angèle Châtelier pour ces archives musicales. Vous nous avez fait danser ici dans le studio d'Europe Soir. Toi aussi, j'espère, Émilie.
Ah oui, oui, oui. Ah bah, Stevie, ça marche à tous les coups.
Et t'aurais pas kiffé grave de recevoir Stevie Wonder, toi, dans ton émission ?
Écoute, alors, c'est possible parce qu'il vient de sortir, là, au mois de novembre, octobre-novembre, deux nouvelles chansons alors qu'il faisait rien depuis quelques années.
Ouais.
Donc, voilà, à cœur vaillant, rien d'impossible.
L'invitation est lancée.
Stevie, you are welcome if you alors, listen to Europe 1.
Quel est ton programme en attendant, ma chère Émilie, ce soir ?
Les 20 ans du groupe Kyo. Cinq albums et 2,5 millions de disques vendus. Kyo qui réédite sa discographie en vinyle et qui nous prépare des nouveautés pour 2021.
Gros, gros kiff du réalisateur Vincent Thévenet ici en régie. Hein. Il est debout sur la platine. Merci Émilie.
Merci Julien.
À tout de suite, on se retrouve dans quelques instants pour prendre l'air avec tes rendez-vous musicaux. C'est vrai que ça nous fait du bien. Dans un instant, le rappel de l'info avec Julien Pierce. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à 18h évidemment.